Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Qu'est-ce qui se passe ? Votre agenda culturel sur Studio Zef. Comme d'habitude, tout ce dont on va vous parler, vous pourrez le retrouver dans l'article « Qu'est-ce qui se passe de ce jour ?». Donc ça sera celui sur le ciné dimanche. Je suis toujours avec Augustin sur le plateau, bonjour.
Bonjour.
Tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un documentaire qui fait la suite d'un autre documentaire et ça s'appelle « Après demain ».
Cool. Et moi je vais vous parler cinéma aussi avec le ciné-rencontre qui a lieu jeudi au Lobis. Mais on va commencer tout de suite avec les infos culturelles de la semaine et on débute avec des ateliers créatifs jeunesse.
Les 11, 12, 14 et 15 février, c'est à Fortan, dans l'ouest vendômois, que les enfants pourront faire diverses activités manuelles, que ce soit du dessin manga, des ateliers à l'encre de Chine, de la peinture au doigt ou créer une histoire en photographie. Des ateliers entre 4 et 14 ans qui durent entre 1h ou 2h30 et le matériel est fourni. Voici de quoi faire des choses de ses mains durant les vacances scolaires, et pour continuer dans une fibre créatrice.
On jongle avec des mots dans un atelier d'écriture proposé gratuitement à la médiathèque Agora Braille de Savigny-sur-Braille. Une incitation à partir en voyage avec les mots et laisser libre cours à l'écriture. Un moment pour partager sans complexe des techniques de récit et des petites astuces. Le rendez-vous est le mercredi 13 février entre 16h et 17h. Et de la création écrite, on passe à l'expérimentation musicale.
Avec l'atelier Maké Maké, le Château d'Eau met en place au studio Pôle Nord de 14h à 17h un atelier collaboratif pour découvrir un instrument délirant. Le Maké Maké est un outil ludique nous venant tout droit du MIT qui permet de transformer un peu n'importe quoi en instrument de musique. Ce petit module ravira toutes et tous en permettant de jouer de la guitare avec un verre d'eau par exemple. L'atelier Maké Maké, c'est pour les 6-12 ans. Ça se déroule le jeudi 14 février à partir de 14h au studio Pôle Nord. Et pour de la nouvelle technologie, on revient en arrière au vintage.
La bourse au disque du Château d'Eau se déroule ce dimanche 17 à la Halle aux Grains. Après l'édition précédente qui a rassemblé pas moins d'un millier de mélomanes, l'association Mars remet ça pour la 11e fois. Amateurs et amatrices de CD en tout genre, vinyles d'époque mais aussi d'affiches et d'objets collectors, venez fouiner et découvrir la pépite qui vous manque. Chansons françaises et du monde, rock, jazz, blues, électro, disco, world et encore bien d'autres styles de musique seront dans les bacs, alors réservez votre dimanche. Et d'une multitude de styles, on se recentre sur des chansons hispanophones.
Véro LP nous présente le spectacle Golondrina, l'hirondelle des faubourgs de Séville à Buenos Aires qui va nous envoyer vite fait en Amérique latine dans des tangos argentins. Elle nous ramènera par la suite du côté de la côte méditerranéenne avec des coplas espagnols. Un spectacle musical qui vous fera voyager dans les pays où l'on parle l'espagnol avec simplement une guitare, des percussions et une voix. Dépaysement garanti, embarquement samedi à 20h30 à Prunay-Cassereau. Et l'on finit notre voyage, mais toujours en Amérique latine.
Avec du tango proposé par Dirty Don Swing au son de l'argentin Astor Piazzolla en première partie du trio Terzetti. Une clarinette, un accordéon et un violoncelle, c'est une alliance peu commune qui vient nous proposer une programmation variée. Le trio Terzetti nous emmène tantôt dans la toccata et fugue de Bach, tantôt dans un blues de Gershwin avant de repartir par la célèbre Xarda de Monti et finissant bien sûr par une note argentine de tango samedi à Gy-en-Sologne. C'était pas facile.
Non.
Et si on en profitait des vacances pour...
Apprendre à faire des bandes dessinées. Ce sont les stages d'hiver de la Maison de la BD. Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, la Maison de la BD à Blois propose différents ateliers pour les enfants dès 8 ans. Dans les ateliers Monstres cachés, on propose aux enfants d'évoquer leurs peurs enfantines à travers la BD. D'abord dessinés à l'encre invisible, les monstres et les cauchemars apparaissent en présence de la lumière bleue. Et pour les plus grands, dès 12 ans, un stage d'approfondissement est proposé, s'adressant aux jeunes désireux d'en apprendre plus sur cet art complexe. Du dessin au scénario, tout est passé en revue. De quoi bien s'occuper pendant ces vacances d'hiver.
Et tu nous parles de Après-demain, un film que tu as été voir la semaine dernière au Théâtre du Grand Orme, il me semble.
Exactement. Donc c'était la semaine dernière au Théâtre du Grand Orme. Donc c'était le film Après-demain de Cyril Dion et Laure Noala. Ce documentaire prend la suite du film Demain, qui vient nous expliquer, nous montrer des gens qui se bougent pour changer des modes de consommation en nous montrant des solutions et des projets déjà existants. Après-demain se déroule 2 ans après le succès de Demain et nous parle de ce qui s'est passé de manière locale après une prise de conscience des spectateurs. Parce que oui, Demain a donné un élan pour faire des choses. Mais au final, il en est resté quoi ? La réponse c'est qu'il y a eu beaucoup de projets ont été lancés, mais peu perdurent aujourd'hui car c'est difficile d'impliquer ses voisins, de s'impliquer soi-même dans des projets à long terme. alors on pourrait dire que ce sont des échecs d'une certaine manière, et bien non en fait. Car même si des projets ont échoué, quelques autres ont réussi. Et globalement, même si l'élan s'est un peu essoufflé, le vent bat toujours les campagnes. Alors, ci et là, ont germé des projets plus longs. Des amis, des voisins, des inconnus se sont retrouvés en se disant « Et si on se mettait ensemble pour changer les choses ?» Alors il a poussé des petits groupes et beaucoup d'idées. Et à plusieurs endroits, après plusieurs années de réflexion, planification et d'investissement, on est sorti des éoliennes, des centrales de méthanisation, de la géothermie. La différence avec avant, c'est que ces installations n'appartiennent pas à des grands groupes, mais aux habitants. Une éolienne, c'est un investissement de 10 à 12%. Alors aucune banque promet ça comme taux directement, mais les habitants l'ont fait. Ils ont investi à hauteur de 2500 euros en moyenne. Et ça leur rapporte, et leur retour sur investissement leur permet de réinvestir dans d'autres projets. Et la projection du film était suivie d'une présentation de projets locaux citoyens. On y retrouve Énergie Partagée, qui vient aider des acteurs locaux et la mise en place de projets, les métairies du Pont-Saint-Michel, proposant un lieu de vie où le jardin biologique est au cœur d'une réflexion globale, Vélo 41, atelier de réparation et de pratique du vélo, la MAP Écoterre pour le maintien d'une agriculture de proximité, Vineuil en transition pour changer Vineuil et son impact carbone, et un autre projet sur Vendôme qui devrait bientôt se concrétiser, et plein d'autres que je ne citerai pas par un manque de temps, mais qui sont tout aussi intéressantes. Donc il y a beaucoup d'initiatives citoyennes en Loire-et-Cher, et faut vraiment s'y intéresser, parce que c'est se remettre à nous, habitants, nous, les consommateurs simples, les énergies et nos moyens de consommation. Et de cette discussion de près de 2 heures, il en est ressorti quelques idées, des projets, et surtout une vision qui se fait, et de comment le faire. Il n'y a pas de collectif Théâtre du Grand Orme après-demain, non, simplement des idées. Et je pense, quoi de plus puissant que des idées ?
Exactement. Merci, c'était cool. Et du coup, ça donne un petit peu d'espoir pour la suite, peut-être ?
Absolument, beaucoup d'espoir. En Loire-et-Cher aussi, allez chercher un peu sur Internet, fouiner, on vous mettra quelques liens. Et il y a plein d'initiatives pour s'engager et pour faire plein de trucs. Et simplement.
Peut-être qu'il faut écouter In Extremis, une petite chronique du vendredi qui est sympa comme tout, et on parle un petit peu de ces initiatives-là. On va faire une petite pause musicale avec Cypress Hill, Tequila Sunrise, tout de suite. Eat the worm, motherfucker. Tequila spice, hot night, feeling right. Sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico. Thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut. Upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. We came south of the border to complete this work order. We gotta get it. No looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute flat for it. God is my witness. We got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Motherfucker.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga. Eat the worm, motherfucker. When you burn, motherfucker, better kill me. Don't let me return, motherfucker.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Et donc on vient d'écouter Cypress Hill et Tequila Sunrise. Et maintenant Lucie, tu vas nous parler de cinéma aussi.
Bah mais oui, je voulais vous parler aujourd'hui de la ciné-rencontre qui a lieu ce jeudi 14 février à 20h30 au Lobis pour la projection du film documentaire André Robillard en compagnie, réalisé en 2018 par Henri-François Humbert. La projection est organisée par l'association Cinéphile en partenariat avec le GNRC, donc c'est le Groupement National des Cinémas de Recherche. Et je trouve intéressant de vous en parler de ce film documentaire et de vous inviter à aller le voir, la projection, car il retrace une histoire de vie peu commune, celle d'André Robillard. Mais d'abord, il faudrait peut-être vous présenter ce monsieur. André Robillard, il est né en 1931 dans le Loiret, tout près de chez nous donc, et c'est un artiste, sculpteur, dessinateur, musicien, qui est surtout connu pour ses créations d'art brut. Alors qu'est-ce que c'est l'art brut ? Ça désigne la production de personnes exemptées de culture artistique. C'est l'art des fous, des marginaux ou des reclus. Ce courant de l'art a été théorisé par Jean Dubuffet notamment. Et vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc revenons-en à André Robillard, il est placé très jeune à 9 ans dans l'école annexe de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais pour des excès de colère incontrôlables notamment, et il quittera plus jamais l'hôpital, ça fait 78 ans, ce qui fait de lui un témoin précieux de l'histoire de la psychiatrie institutionnelle, mais pas que. André Robillard, c'est avant tout un artiste. Il confectionne entre autres des fusils et autres vaisseaux spatiaux avec des objets de récupération. Son médecin psychiatre, le docteur Paul Renard, enverra certaines de ses œuvres à ce fameux Jean Dubuffet dont je vous ai parlé juste avant, pour qu'il les mette dans sa collection d'art brut. C'est ainsi que petit à petit, André Robillard est passé de patient à artiste. D'ailleurs, si je peux vous recommander un excellent musée d'art brut, c'est Espace en Suisse, à Lausanne, et c'est la folie, c'est trop trop bien. Le réalisateur documentariste Henri-François Humbert a croisé plusieurs fois la route d'André Robillard tout au long de sa carrière. Et la première fois, c'était il y a 25 ans, en 1993, avec le court-métrage André Robillard à coups de fusil, avant même que ce dernier ne soit reconnu pour son art. 20 ans plus tard, en 2013, il sort un nouveau documentaire, André Robillard en chemin, dans lequel on voit déjà l'évolution de ce dernier, aujourd'hui artiste internationalement reconnu du champ de l'art brut. Et dernièrement, en 2018, donc 25 ans après son premier film sur l'artiste, Henri-François Humbert revient avec la réalisation de ce troisième documentaire, André Robillard en compagnie. Ici, le documentariste le suit lors d'un voyage à l'hôpital de Saint-Alban, en Lozère, pour présenter une création théâtrale auquel André participe. Dans ce documentaire se croisent deux regards, une rencontre entre l'histoire de la psychiatrie institutionnelle, l'imaginaire de l'artiste et même l'art brut. Ces trois domaines étant, je pense, intrinsèquement liés. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce parcours de vie atypique, je vous conseille de vous rendre à la projection du 14 février, puisque le réalisateur sera présent à la fin pour répondre à toutes vos interrogations à ce sujet.
Eh bien, merci beaucoup pour cette précision. Et donc, c'est du Cinépsy ?
Ouais, c'est Cinéphile qui fait une rencontre, Cinépsy, ça s'appelle. Et ouais, totalement.
C'est vachement intéressant. Et on va vous laisser avec une interview de Ciné Dimanche sur la programmation de Ciné Dimanche. Ce que c'est, pourquoi ?
Ah, du coup, on a interviewé Véronique Rétivo et Margot Vinzac, qui est service civique auprès d'elle.
Donc on est à la direction des affaires culturelles de Blois, et on est avec Véronique Rétivo et Margot. Bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Ciné Dimanche ? C'est quoi ?
Alors, Ciné Dimanche, c'est une programmation de films, on va dire de films d'auteurs, de films qui sont réalisés, je dirais, par des réalisateurs qui ont une attention particulière pour les enfants. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment des auteurs qui travaillent sur la création d'œuvres. Il y a soit un aspect esthétique particulier, soit il y a une réflexion qui permet aux enfants et aux parents de réfléchir. Donc c'est toujours une joie. Souvent on fait donc des ciné-petit-déj le dimanche matin à 10h30 et on échange avec les enfants et les parents. Et c'est souvent une joie pour les parents. D'abord c'est un temps particulier le dimanche matin, tout le monde est très calme, tout le monde est ouvert à l'échange pour parler des films, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aimerait voir. C'est une sélection de films, c'est-à-dire on n'est pas dans un cinéma où on accueille, on va dire, tous les films, on les projette. Là, ces films-là sont choisis, en fait. Comme en plus c'est une sélection et qu'ils sont souvent distribués par des distributeurs qui ont une aussi attention particulière pour les enfants, il y a en général des dossiers pédagogiques ou des photos, des visuels, comme on a pu vous montrer pour Oko et les fantômes. sur tous les thèmes. On parle même effectivement de la culture japonaise ou des religions ou de l'habillement. Là, on a fait sur l'habillement, mais aussi sur des sujets plus graves ou des ateliers qui sont clés en main, on va dire, qui permettent à des animateurs ou à des enseignants de tout de suite pouvoir travailler le film en amont ou après avoir vu le film. Ce sont toujours des films qui sont quand même assez légers et gais.
Quel est l'intérêt d'aller voir des films avec Ciné Dimanche ? Quel est l'intérêt que ce soit pour les enfants ou comme pour les parents ?
Oui.
Donc quel est l'intérêt d'emmener justement ses parents au ciné et d'aller voir des films ?
L'intérêt, c'est en fait, si on dit c'est des films pour emmener ses parents au ciné, c'est que les parents ne vont pas s'ennuyer. Contrairement à d'autres films, d'abord, l'intérêt, c'est qu'il y a un échange. Hein, on sait qu'avec la diversité maintenant des écrans, on est chacun seul dans son coin ou les parents sur Twitter, Facebook et les enfants sur des tablettes à regarder des films et à ne pas échanger. Or, en matière, on va dire, de prévention et d'éducation, ce qu'il faut, c'est en fait échanger, en fait, regarder avec les enfants. Je vous parlais du dimanche matin parce que vraiment, le dimanche matin, c'est-à-dire c'est les parents et les enfants qui sont là, qui vont venir ensemble, qui vont être côte à côte. On est dans le noir, on ne peut pas allumer son Facebook, on ne peut pas être au téléphone, voilà. Il y a une espèce de temps particulier, là où on se concentre sur le film, et puis après on en parle. Et ça permet, quelquefois c'est un objet transitionnel, c'est-à-dire qu'à l'écran, on a des sujets difficiles qu'on n'arrive pas, ou qui sont conflictuels avec les parents, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, voilà, le décès d'un parent, d'une grand-mère, voilà, bon, ça peut être difficile à aborder. Par exemple, pour Oko et les fantômes, effectivement, la petite fille, là, est orpheline. Ça permet de discuter sur comment on se guérit, par exemple, ce film-là, alors que tout le film est drôle, parce qu'il y a des petits fantômes qui l'embêtent, qui l'aident, etc. Donc, on est sur quelque chose de drôle, mais en fait, on est sur la guérison de la perte, quand même, de ses parents. C'est quand même pas rien. Donc, on arrive avec quelque chose de léger. Et donc, c'est pour ça que, là, je sais que des parents m'ont dit « Ah, merci, parce que c'est vrai qu'on a du mal, on ne sait pas comment aborder ces sujets-là, et c'est difficile. » Et là, quand on vient le dimanche matin, on boit le café, voilà, dans le hall des lobbies, on mange un petit gâteau, on discute. Alors déjà, il y a une espèce de convivialité qui s'installe, de confiance, aussi de relation de confiance. Voilà. On a aussi, grâce à ces signes petit-déj, je dirais, des familles qui ne viennent pas, on travaille avec les Restos du Cœur, qui ne venaient pas voilà, au cinéma, les lobbies en tout cas, et qui petit à petit sont venues et ont pris confiance en elles. Par exemple, elles n'arrivaient pas jusqu'au café, et puis maintenant elles arrivent jusqu'au café pour discuter voilà, du film, où elles demandent si elles peuvent venir voir un autre film, où est le livre du film, voilà. Parce que l'intérêt aussi, ce que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que beaucoup de ces films sont en fait adaptés de livres. Comme ils sont adaptés de livres, c'est vrai que je pense que pour des parents, et par exemple, je parle d'une maman là qui je pense qu'elle ne sait pas lire le français, elle a des difficultés en tout cas. Comme je tenais le livre dans la main, deux livres d'ailleurs, et je lui ai présenté le livre du film qui allait passer, et je lui parlais d'un autre film, et elle est venue à la fin en disant « moi, je voudrais venir voir l'autre film ». Et elle voulait le livre aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle a fait le lien avec lire les histoires, l'école, voilà, je ne sais pas, d'un seul coup. C'est plus facile de voir un film et puis après de se dire tiens, moi je vais prendre le livre, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans le livre en fait.
Et est-ce qu'on pourrait avoir un coup d'œil sur un peu la programmation, parce qu'elle est très variée, que ce soit sur les techniques d'animation que sur les sujets abordés?
Et pendant les vacances d'hiver par exemple, pour les parents qui cherchent un programme pour les vacances?
Pour les vacances de février, alors un film très drôle, voilà. Alors le film léger par excellence là, c'est Mango par exemple. Là c'est dès 6 ans. Il a débuté hier, donc, et c'est un film très drôle qui va passer aussi pendant les vacances. C'est en ce moment, on va avoir aussi Dimitri d'ailleurs ce week-end, Bon Voyage Dimitri, qui est pour les tout-petits, là, à partir de 3 ans. Mango va durer pendant toutes les vacances, donc là il est sorti, alors là c'est une petite taupe, mais c'est toujours très drôle, mais souvent il y a la solidarité, hein. Pour les films pour enfants, il y a toujours, voyez par exemple, on dit joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde, voilà, mais à un moment quelqu'un va vouloir s'approprier la mine où il est, et il doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve, donc il y a toujours quelque chose dans comment je fais pour me construire moi, et comment je fais avec ma famille. Voilà. On a le Télérama Enfant, on participe. Donc il y a différents films, deux avant-premières, Le Cochon, le Renard et le Moulin, le 17 février à 11h, une avant-première, et La Petite Fabrique de Nuages, le 24 février à 11h, c'est dès 4 ans. C'est un distributeur, un classique, qu'on peut remercier comme Cinéma Public Film, comme les films du Préau, comme Little KMBO, je me permets de les citer parce que c'est vraiment des gens qui travaillent, qui font des dossiers pédagogiques, qui réfléchissent. Alors, nous avons surtout aussi des... Alors bon, il y a Astérix, Le Secret de la Potion Magique, Lilia Paris, qu'on va reprendre, La Chasse à l'Ours, Le Château de Cagliostro, donc le Miyazaki, Mango, qui va se poursuivre jusqu'en début mars, Oko et les fantômes aussi jusqu'à début mars, Pachamama et Petit Conte sous la neige. Voilà. Ce qu'il y a pendant les vacances de février, c'est des ateliers, qui sont des ateliers, c'est sûrement la particularité de cette programmation quand on travaille dans l'art et essai, les films avec des réalisateurs, c'est justement l'éducation à l'image, d'éveiller les regards, hein, de faire en sorte que les enfants s'amusent, mais qu'ils prennent du recul par rapport à ces images qui vont les envahir. Alors on parle des fake news, mais effectivement, pour les enfants, ils sont baignés dedans, donc c'est difficile pour eux peut-être de faire la différence. Pour travailler ça, moi j'ai demandé à un réalisateur en fait de prendre des extraits du film La Chasse à l'Ours. Il a pris des extraits et en fait on le remonte sur une table qui s'appelle une mash-up. Quand ils vont remonter le film, ils peuvent faire un contresens. Voilà. En fait, c'est pas un contresens, c'est qu'ils vont inventer une histoire. Mais ça veut dire que quand même, s'ils étaient reporters, ils pourraient très bien montrer le contraire de la réalité, et en plus de bonne volonté. Donc c'est intéressant. Ou alors inventer une histoire, et après ils peuvent aller voir le film, quelle est la version qu'a voulu dire le réalisateur. Donc il y aura aussi l'ADIF qui proposera Puzzlerama, on est sur le même principe que Musicorama. Ça c'est le 23 février, l'atelier de 14h à 16h, avec Ludovic Touchard, c'est sur inscription. Et c'est pareil, on remonte des images. Et il y aura aussi une exposition de... Mais c'est vrai que le tarif pendant le festival, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est 3,50 euros quand même, avec le pass qui est quand même peu cher. De toute façon, à l'année, c'est 5 euros hein, pour Ciné Dimanche, pour les films Ciné Dimanche, pour les enfants de moins de 14 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même pas cher du tout.
Bien, merci beaucoup pour cette présentation de Ciné Dimanche.
On est de retour, on remercie encore Margot Vanzac et Véronique Rétivo de nous avoir reçus et de nous avoir donner cette interview. Et qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fini pour aujourd'hui. On vous laisse avec de la musique, c'est Cascade de Kubi. Je prononce oui. Certainement mal vu que c'est norvégien.
C'est exactement, c'est un norvégien qui est assez jeune, il doit avoir une vingtaine d'années. Et il fait de la musique, c'est pas de l'électro, c'est de la musique électronique. Donc fait uniquement à partir d'appareils électroniques et c'est assez bon. Enfin, moi j'aime beaucoup.
Ok, bon, on va écouter ça. Toutes les infos comme d'habitude sont à retrouver sur le site de Studio ZEF. Et puis nous on se retrouve vendredi pour un nouveau Qu'est-ce qui se passe ce week-end.
Avec un In Extremis.
Très bonne semaine à vous.
Très bonne semaine.